Il est 6h, bon réveil à tous.
Fasse vite en fait, parce que c'est ce qui est embêtant, c'est de pas savoir en fait, c'est d'être là, est-ce qu'on va être confiné ou pas.
Inquiétude et lassitude à Nice, où l'annonce d'un durcissement des mesures sanitaires se fait attendre. Reconfinement le week-end, couvre-feu renforcé, un flou qui a déjà des conséquences chez les professionnels du tourisme. Dans ce journal, retour à l'école ce matin pour les élèves de la zone A, ce sont eux qui expérimenteront en premier les tests salivaires cette semaine. L'ouverture aujourd'hui du procès de l'infirmière qui avait lancé des projectiles sur la police au cours d'une manifestation l'été dernier. Et puis le récit dans ce journal d'un incident qui aurait pu virer au drame. Aux États-Unis, un Boeing s'est enflammé avant d'atterrir d'urgence. Il n'y a pas eu de victime.
À suivre la page des sports. Et puis avec mon invité inattendu, nous célébrerons les scouts ce matin. Les scouts nés il y a plus d'un siècle et qui attirent toujours des centaines de milliers d'enfants. C'est un chanteur populaire qui vient nous raconter ce matin ses souvenirs de louveteaux et d'éclaireurs. Rendez-vous à 6h15. Bon réveil à toutes et à tous avec Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et toujours pas de décision pour les Alpes-Maritimes. Le gouvernement examine toujours les propositions de la préfecture pour lutter contre la flambée de l'épidémie de coronavirus. Alors que le nombre de contaminations explose dans le département avec un taux d'incidence 3 fois plus élevé qu'au niveau national. Alors le mot confinement a été beaucoup prononcé ce week-end, mais aucune certitude n'a été donnée aux commerçants déjà très affectés par la pandémie. Éric Trolliard est le directeur de l'hôtel Aston La Scala.
Les annulations n'ont pas tardé à se faire sentir puisque depuis 48 heures, nous avons déjà enregistré 35 annulations, c'est-à-dire 48 nuitées annulées. On a l'impression qu'on est le département 06 qui effectivement, je dirais, paye pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a d'autres départements qui sont aussi atteints que nous, comme la Moselle par exemple, mais on a l'impression qu'on sert de département pilote sur ce confinement qui sera peut-être un confinement de week-end ou un confinement permanent. Je reste persuadé que plus de contrôle sans confinement, on y arrivera. Donc aujourd'hui, on est soutenu par notre propriétaire et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on survit. On ne l'aurait pas, on mettrait la clé sous la porte.
Un témoignage recueilli par Marion Gauthier.
On en vient au déploiement cette semaine des tests salivaires dans les écoles.
Dans les écoles de la zone A qui accueillent les élèves de retour des vacances d'hiver ce matin. Le Premier ministre Jean Castex a fixé un objectif de 200 000 tests par semaine. Virginie Salmen, la mise en place sera progressive et comment ça va se passer ?
Alors, les élèves vont devoir cracher au moins 1 millilitre de salive dans un flacon en plastique après avoir donné leur nom, prénom, numéro de sécurité sociale et un accord écrit des parents. Ces dépistages ciblés sont pour l'instant réservés aux élèves les plus jeunes, en maternelle et en élémentaire, pour qui les tests dans le nez sont jugés trop intrusifs. L'échantillon de salive sera ensuite récupéré par un laboratoire de secteur désigné et analysé par la même méthode qu'un test PCR par écouvillon dans le nez. Si le test est positif, un criblage sera effectué pour rechercher le variant, anglais ou sud-africain par exemple. Selon les représentants des laboratoires, le processus n'est pas entièrement bouclé. Par exemple, ils ne savent pas encore à qui ils devront envoyer les résultats. Si c'est aux parents, il faudra récolter les coordonnées au moment du dépistage. Si un élève est testé positif, il devra être averti avant le lendemain 8h pour ne pas qu'il se présente à l'école.
Les précisions de Virginie Salmen. À l'étranger, les écoles rouvrent petit à petit à partir de ce matin en Écosse et au Pays de Galles. Les effets du reconfinement au Royaume-Uni se font sentir. Moins de contaminations, d'hospitalisations, moins de morts aussi. Le Premier ministre britannique Boris Johnson envisage un plan de déconfinement. Il sera lent et progressif, dit-il. Et puis aux États-Unis, la barre du 500 000 de morts est sur le point d'être franchie, mais le rythme de la vaccination apporte une lueur d'espoir. 1,7 million d'injections quotidiennes. Le président Joe Biden espère atteindre d'ici fin juillet 600 millions de doses, de quoi vacciner l'ensemble de la population.
L'actualité de ce lundi matin, c'est aussi l'ouverture du procès de l'infirmière qui a lancé des projectiles sur la police.
Oui, c'était lors d'une manifestation de soignants. En juin dernier, une infirmière de 50 ans était interpellée sans ménagement par les forces de l'ordre, suscitant une vague de protestations dans l'opinion publique au vu de la vidéo de la scène filmée par des manifestants. Et c'est donc aujourd'hui qu'elle sera jugée à Paris, Chloé Triomphe.
Oui, cette infirmière de 50 ans sera jugée pour outrage et violence sans ITT sur personne dépositaire de l'autorité publique. En garde à vue, elle avait reconnu les jets de morceaux de bitume sur les policiers et avait expliqué son geste par un sentiment de colère contre l'État dans un contexte où elle avait travaillé des mois durant à l'hôpital pendant le pic de l'épidémie l'an dernier, exténuée, elle-même contaminée par le virus et ayant dû affronter le décès d'une vingtaine de patients sous ses yeux. Les images montrent une femme effectivement en colère, qui fait deux doigts d'honneur et qui jette des projectiles en direction des forces de l'ordre. Ses tirs n'ont pas atteint les policiers. Une autre vidéo montre son interpellation musclée, notamment lorsque cette infirmière d'1,55 m est tirée par le col et plaquée au sol alors qu'elle réclame sa ventoline. L'affaire avait d'abord suscité l'émoi lors de la diffusion de la vidéo d'interpellation, puis le débat. Aujourd'hui, ses soutiens demandent que le contexte ne soit pas éludé au moment de l'examen des faits par le tribunal.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Il est 6h06 sur Europe 1. Nous revenons sur cette grosse frayeur pour les passagers d'un vol entre le Colorado et Hawaï ce week-end. Leur avion a subitement pris feu au niveau du réacteur.
Et l'angoisse n'aura duré que quelques minutes avant que le Boeing ne fasse demi-tour et atterrisse sans encombre. Quelques minutes qui ont dû paraître des heures pour les personnes à bord. Fort heureusement, l'incident n'a fait aucune victime. Damien Mestre.
Le Boeing décolle tout à fait normalement au-dessus de l'aéroport de Denver, direction Hawaï, à son bord 231 passagers, quand soudain, le réacteur droit prend feu, se désintègre petit à petit, l'avion se met à trembler, perd de l'altitude et des centaines de mètres plus bas, c'est la stupeur sur la terre ferme.
Holy shit.
Les passants évitent les débris qui tombent sur la ville, mais l'avion finit par faire demi-tour, se pose sans encombre.
Yeah !
À bord comme au sol, aucun blessé n'est à déplorer. Miracle dans le ciel du Colorado.
Le récit de Damien Mestre. Et après cet incident, l'autorité américaine de régulation de l'aviation a ordonné des inspections supplémentaires et approfondies sur certains Boeing 777. En Birmanie, 3 semaines après le coup d'état militaire, la tension monte. La tension ne faiblit pas. Au contraire, la junte prévient les manifestants qu'ils risquent de mourir s'ils continuent à descendre dans la rue. Une annonce au lendemain de la journée la plus meurtrière depuis le putsch. 3 personnes sont mortes samedi après que la police a tiré dans la foule.
En France, l'année dernière, 2 recrutements sur 5 se sont faits sans aucune publication d'offres d'emploi, selon une étude du groupe Randstad.
Oui, cela représente près de 3 millions de recrutements passés par le bouche à oreille. On appelle ça le marché invisible de l'emploi, Olivier Samin.
Oui, 2 900 000 embauches réalisées l'an dernier via le bouche à oreille. Autrement dit, 41% de toutes les embauches recensées en France en 2020. L'année d'avant, c'était même 50%, mais la crise sanitaire est passée par là. Souvent, ces embauches font suite à une candidature spontanée, mais ça peut être aussi la cooptation ou le recrutement en CDI d'une personne jusque-là en CDD ou en intérim. Il y a des métiers où c'est la pratique habituelle. Pour les commis de cuisine et les plongeurs, c'est 9 embauches sur 10. Idem pour les maçons, les employés de bureau, les employés de libre-service et les employés de ménage. À l'opposé, aucun cadre ou presque n'est recruté de cette manière. Ce qui explique le recours important aux embauches sans annonce, c'est la spécificité de certains secteurs d'activité. La saisonnalité, par exemple, très forte dans l'hôtellerie-restauration, qui conduit les employeurs à réembaucher chaque année des salariés qu'ils connaissent et pour lesquels il n'est pas nécessaire de passer une annonce. Résultat, dans les hôtels, cafés, restaurants, quand ils ont lieu, ce qui était nettement moins le cas l'an dernier avec la crise sanitaire, 7 recrutements sur 10 se font de cette manière. Dans l'industrie, en revanche, c'est moins d'un recrutement sur 10.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Et puis vous démarrez vos vacances depuis en tout cas ce week-end si vous habitez en zone B. Et dans ce contexte de crise, il va falloir faire preuve d'imagination pour occuper vos enfants.
Un voyage difficile à organiser, couvre-feu à 18h qui limite les balades. Alors voici une idée, pourquoi ne pas essayer les contes musicaux. Angèle Châtelier a quelques recommandations.
Mon papa, moi, c'est le loup qui fait peur.
Dans le conte musical Loup Papa Poule, le héros est un grand méchant loup qui ne pense qu'à son travail et ne voit pas Filou, son fils. Mais un jour, il fait un burn-out et il devient même peureux.
Il est où le loup ? Il est où ?
En réalité, le loup est l'image du père de famille. Théophile Hardy, le co-auteur et musicien de Loup Papa Poule, et ce loup, c'est une allégorie de sa toute jeune paternité.
Notre approche, c'était que les enfants comprennent peut-être un petit peu mieux ce qui se passe dans le cœur des papas, mais aussi que les papas puissent peut-être trouver leur place au sein de la famille, parce qu'on a l'impression que c'est un gros enjeu de notre époque.
Et ce conte musical ludique est pour tous les âges. Alors que pour lire et écouter Rock the Cavern de Cyril Magui et Bertrand Lanche, il faut aimer la musique plus énervée. Ce conte musical est une vraie fausse histoire, disent-ils, de la préhistoire, celle du premier groupe de rock de tous les temps.
Hé, Antoumout, je t'échange ce silex taillé contre ton petit fruit bleu là.
Les personnages sont à Glastonbury entourés de mammouths et de peintures rupestres et ils découvrent sur une peau de serpent des manuscrits précieux. 11 chansons pionnières du rock and grot à écouter dès 4 ans.
Le rock and grot. On peut apprendre le rock à ses enfants avec
ça
les contes musicaux.
Ça change des contes traditionnels.
6h10 sur Europe 1, c'était le journal de Sophie Echen.